Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence débat avec Jacques Ravenne, qu'on ne présente plus. Et donc on va s'éviter cette partie habituelle de biographie et de description des écrits longs, nombreux et variés. Et puis on va essayer de rentrer directement dans le cœur du sujet. Le titre de cette conférence étant « Romanesque et ésotérisme », je vais commencer par quelque chose d'un petit peu scolaire et quelle est votre définition de l'ésotérisme ?
Je m'attendais un peu à cette question, mais j'avoue que je m'étais dit qu'on ne la poserait quand même pas. Et donc, bien évidemment, je n'avais pas préparé la réponse. Écoutez, il y a trois possibilités pour définir l'ésotérisme. Vous avez un ésotérisme qu'on a tendance, nous, à appeler un petit peu un ésotérisme de pacotille, qui laisse à penser qu'il y aurait un enseignement plus ou moins perdu, plus ou moins indiscret parfois, et qui permettrait à des personnalités quelque peu élues, un petit peu supérieures à la norme, d'acquérir certains pouvoirs. Et vous avez des courants occultistes, en particulier à la fin du XIXe siècle, qui ont vraiment développé cette idée. Vous avez un courant, lui, plus proche un petit peu de la franc-maçonnerie, qui pense qu'à travers toutes les traditions philosophiques, beaucoup de traditions religieuses, on peut peut-être définir un fond commun, une religion naturelle plus universelle, plus portée sur l'humanisme. Et là, c'est une autre version de l'ésotérisme, celle qui est un peu plus présente aujourd'hui en maçonnerie. Et puis après, vous avez la définition philosophique, en quelque sorte, de l'ésotérisme, qui est que le dogme est fait pour être dépassé. Voilà. Que le dogme est exotérique, que c'est un enseignement, que cet enseignement est conditionné par un certain nombre d'éléments qui peuvent être historiques, culturels, voire ethniques, et qu'au-delà de ça, on peut avancer, que l'homme peut avancer vers sa propre libération, et que cette libération, évidemment, s'oppose au dogme des églises et des religions. Et là, vous avez une grande opposition qui est ésotérisme humaniste opposé au dogmatisme religieux.
Très bien. Et en quoi l'ésotérisme intéresse le romanesque ? En quoi c'est obligatoirement ou très souvent source d'intérêt pour le romanesque, qu'on pourrait définir aussi entre la différence entre lié au roman ou légèrement tourné vers le romantisme et la romantisation.
Ah oui, alors
ce qui est deux versions différentes.
Oui, mais je pense un petit peu comme je l'ai indiqué, c'est-à-dire qu'il y a toujours une volonté dans l'ésotérisme à la fois de soif de savoir quelque chose qui est peut-être un petit peu inconnu, un petit peu interdit. Donc là, déjà, vous avez un élément romanesque qui est essentiel et qui commence avec la Bible, avec la pomme. Hein, ça commence comme ça. Et puis, vous avez ensuite tout ce qui est dépassement de l'homme à sa propre rencontre. Et ça aussi, c'est quand même l'aventure du roman en Occident depuis le milieu du XVIIIe siècle. Voilà. Et c'est comme ça que les deux versus se rejoignent.
Vous avez parlé de l'importance de l'interdit pour l'ésotérisme. Est-ce que on peut faire une différence entre la fascination pour l'interdit et la fascination pour le secret, qui sont deux choses différentes ?
Ah oui, oui. La fascination pour le secret, je pense qu'elle a toujours eu, elle porte en elle-même la capacité justement à être fracturée. C'est-à-dire que dès qu'il y a secret, il y aura toujours volonté de le percer. Il y a une chose très amusante, on raconte par exemple qu'en franc-maçonnerie, les premiers initiés au XVIIIe siècle en Angleterre, on leur faisait jurer sur à peu près tout que le secret ne serait jamais percé, et que quelques jours après les fameux serments, ils ont dû être obligés de changer tous les rituels pour la moindre impression que les médias ont donné le compte rendu détaillé aussi bien que quand Paris Match est à l'Élysée. Donc le secret, ce n'est jamais quelque chose qui tient. L'interdit, c'est différent. Parce qu'on prête à l'interdit une vertu autre. Vous connaissez l'expression, l'herbe est toujours plus verte dans le champ du voisin. Quand vous transgressez quelque chose, ça vous apporte un pouvoir supplémentaire. Et là, curieusement, les gens sont beaucoup plus convaincus. En revanche, parfois, on brise des secrets, et puis derrière, ben, ma foi, il n'y a rien.
Le vide derrière l'inconnu. Et pourquoi est-ce qu'on peut... parce que vous écrivez des romans où, évidemment, l'ésotérisme est présent, mais est-ce qu'on peut dissocier les autres, les deux termes? Est-ce que vous pourriez écrire sur l'ésotérisme de façon très sérieuse et pas du tout romancée? Est-ce que ça vous semble utile, intéressant ou,
Non. Alors, intéressant, suivante. Sans doute. Utile, peut-être. Est-ce que je pourrais écrire dessus? Non. Non, parce que le vocable même d'ésotérisme est quelque chose qui, en France, est très galvaudé. C'est-à-dire, l'ésotérisme est ramené, en gros, en France, à l'occultisme. Voilà, c'est assez simple. Si vous prenez n'importe qui dans la rue, est-ce que c'est l'ésotérisme? En gros, la définition va osciller entre les tables tournantes, j'ai failli dire les chaises roulantes, mais bon, je commence à fatiguer un peu. Les tables tournantes.
Si elles roulent seules, c'est un peu ésotérique quand même.
Oui, ou alors vous voulez hériter. Entre les tables tournantes d'un côté et puis la sorcellerie. Voilà, c'est ça l'ésotérisme globalement. Et écrire là-dessus me paraît ne pas être forcément très intéressant. Et il n'y a pas eu aussi de grands écrits. Comme on a pu connaître sur d'autres sujets philosophiques, qui ont pris l'ésotérisme en tant que vainqueur, dépasseur du dogme. C'est assez rare, en fait. On n'a pas de philosophes qui se sont penchés vraiment, à part les antiques, sur cette question-là.
Et ils pourraient le faire de quelle façon?
Ah, mais je pense qu'on aurait besoin, aujourd'hui, fondamentalement d'ésotérisme. À l'époque où la question de laïcité est en débat perpétuel, à l'époque où la montée en puissance des religions inquiète les sociétés, la question de l'ésotérisme, c'est-à-dire de pouvoir penser le sacré au-delà du dogme, c'est bien une voie qui est libératoire, me semble-t-il, c'est celle-là.
Bien. Alors entrons un tout petit peu dans un sujet qui est une actualité récente pour vous. Quelle est la part qui l'emporte, justement, quand vous parlez des sept vies du marquis de Sade? Quelle est la part qui l'emporte? L'ésotérique, le romanesque? Est-ce qu'il y a dans la vie du marquis de Sade des choses ésotériques?
Est-ce qu'il y a dans la vie du marquis de Sade? Écoutez, vous enlevez le S et vous le remplacez par un R, et là, ça fait érotique. Et là, je peux vous répondre que là, oui, on peut en parler. Non, l'ésotérisme ne l'a jamais vraiment intéressé, alors que ça intéressait beaucoup son époque. Cette fin du XVIIIe est remplie de traités sur la sorcellerie, l'alchimie, et même par rapport à des gens qui sont proches de lui. Pour vous donner un exemple... il existe dans les années 1780-1785 à Paris, à Montmartre, une loge maçonnique très cotée qui s'appelle les Philalettes, ou les Amis Réunis, ils ont deux noms. Et on a les listes des membres de cette loge, et sociologiquement c'est intéressant, 75% sont des financiers, des hommes qui touchent à la finance à la fois publique, privée et internationale. On dirait aujourd'hui une loge d'influence, un groupe Bilderberg carrément.
Et un groupe de lobbying.
Un groupe de lobbying, vraiment, oui. Et on a leurs écrits, les lettres qu'ils échangent entre eux. Et c'est assez drôle parce qu'ils sont confrontés au même problème que le nôtre, c'est-à-dire le déficit de la France. Et ces gens réfléchissent à la manière dont ils vont résorber le déficit de la France. Vous savez quelle est leur solution?
Je pense l'alchimie. Qu'il y a plein de gens qui aimeraient la savoir.
Voilà, l'alchimie. Et ces gens très rationalistes montent un laboratoire d'alchimie à Montmartre avec un des membres de leur loge qui leur garantit de trouver la pierre philosophale pour faire l'or. On a des écrits de ces gens qui disent « ça nous permettra d'être moins dépendants de l'or espagnol ». On croit entendre aujourd'hui « ça nous dépendra d'être moins dépendants du pétrole d'Arabie saoudite ». Et l'alchimiste meurt après avoir ingéré sa pierre philosophale, ce qui fait que la suite, vous la connaissez, c'est le complet. Voilà. Le déficit n'est pas réduit, la Révolution française arrive, et puis voilà. Donc effectivement, c'était une époque qui était très, très, alors qu'on l'a dit rationnelle, très ouverte sur ces questions-là. Mais c'est passé aux antipodes de Sade.
Est-ce que votre intérêt pour montrer la franc-maçonnerie sous un angle policier, est-ce que c'est une façon de la démystifier? Est-ce que c'est une façon de montrer à quel point... Parce que pour moi, votre héros, c'est ce qui le réunit entre le fait qu'il soit franc-maçon et le fait qu'il soit policier, c'est la curiosité. Est-ce que le fait d'être un policier, un curieux, ça correspond bien à ce que c'est que d'être un franc-maçon de façon un peu démystifiée?
Alors déjà, être franc-maçon et policier, pour un seul homme, ça fait beaucoup. Hein. Je suis désolé, c'est un peu la croix à porter. Alors effectivement, c'est la curiosité, oui. C'est d'essayer, mais ça c'est à la fois commun à la franc-maçonnerie et c'est à la fois commun à la police dans ses enquêtes, et c'est à la fois aussi la définition de l'ésotérisme, c'est d'essayer de voir au-delà des apparences, au-delà de ce qui est donné comme une vérité en soi. Et c'est vrai qu'avoir conjoint en quelque sorte la quête maçonnique d'un côté et l'enquête policière de l'autre, ça avait en fait plus de parenté qu'on pouvait le penser. Est-ce que c'était en vue de démystifier la franc-maçonnerie? En partie au début, oui, parce que mon co-auteur était journaliste et enquêtait sur les dérives ce qu'on appelait pudiquement les dérives maçonniques dans le sud-est de la France. Et il faut bien avouer que quand il venait chez moi dans le sud-ouest, les repas étaient quelquefois délicats, parce qu'il rencontrait des personnages assez typiques, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais peu à peu, je crois que ça a changé un petit peu. Écoutez, je crois franchement que si le héros fonctionne, c'est pour une raison toute simple. C'est qu'on n'en a pas fait super franc-maçon, qui règle tous les problèmes. On a gardé et on a développé la dimension humaniste
Il n'a pas
du
de cap.
personnage. Non, il n'a pas de cap, voilà. Même s'il a fait pas mal pour réduire le déficit de la France dans un certain roman. Mais ceci étant dit, voilà. On en a fait un personnage qui reste à la fois à portée de ses auteurs et à portée de ses lecteurs.
Comment vous envisagez la suite pour lui? Parce que si on fait la liste, il s'est occupé un peu des nazis, un peu de Casanova, un peu de Nicolas Flamel.
Je vous ai dit Nicolas Sarkozy.
Non, il pourrait s'en occuper. Non?
Ça peut redevenir d'actualité.
Les assassins, ce qui est lié au monde musulman, l'Apocalypse, l'Égypte ancienne, les Templiers en deux tomes et les Illuminati. Quelle est la prochaine étape?
Alors ça c'est très fin, c'est pour pouvoir me faire dire ce que... Le sujet, on l'a déjà, vous inquiétez pas. Alors déjà, l'ésotérisme en France, c'est un sujet extrêmement vaste. Vous avez les Templiers, mais vous avez aussi Brocéliande, vous avez les Celtes, vous avez le Graal, vous avez les tables tournantes. Il y a vraiment de quoi faire parce qu'on vit quand même, le pays de Descartes vit quand même dans ce fond mythologique.
C'est important de le préciser, c'est
Oui.
que c'est pas l'ésotérisme, c'est pas juste des gens qui réfléchissent ou qui en secret, c'est aussi Brocéliande.
C'est aussi Brocéliande, c'est tout quand même le légendaire, hein, en particulier ici quand on est aux imaginales. C'est vrai que, et puis il y a un imaginaire maçonnique aussi qui rentre grandement en jeu. Non, je veux dire, le problème qu'on a avec Marcas, c'est plus du tout, si vous préférez, le sujet. Il y a eu trois périodes. Il y a une période où on faisait des conférences comme ça, puis les gens posaient des questions. C'était pendant les trois premiers romans, trois, quatre premiers romans. Et les gens disaient, nous interrogeaient sur maçonnerie, écriture, maçonnerie, police, on répondait. Puis les bouquins ont bien marché. Après, les gens venaient nous poser des questions sur nous. Ça a été notre heure de gloire. On était contents. Puis maintenant, ils ne posent que des questions sur Antoine Marcas. Nous, on n'existe absolument plus. Et on a un vrai problème, c'est que Antoine Marcas ne trouve pas l'amour. Alors, ça va vous paraître très truc, mais on se fait parfois engueuler dans les conférences en disant, non mais franchement, le rôle des femmes, comment ça se fait que... C'est vrai que c'est malencontreux,
Je
mais
peux
chaque
comprendre.
fois qu'il a une aventure, la femme qu'il rencontre meurt. Et ce que les lecteurs ne comprennent pas, c'est que le meilleur moyen de se débarrasser d'un personnage pour ne pas le retrouver au livre suivant,
C'est qu'il meurt.
c'est de le tuer. Voilà. Et donc c'est un personnage qui commence à avoir une ampleur par lui-même, et on est obligé à la fois de le traiter, évidemment, par l'aspect thématique, ésotérique, mais on est de plus en plus enclin à travailler aussi sa biographie, à ce qu'il évolue en même temps que ses lecteurs, et à travailler de plus en plus son rapport entre maçonnerie et humanisme. Aujourd'hui, l'ésotérisme tend à être quand même plus un prétexte à ben voilà, un personnage qui vit sa propre vie.
D'un point de vue purement féminin, j'aurais tendance à dire que votre personnage est un tout petit peu porte-poisse pour les femmes qu'il rencontre.
Écoutez, quand on a écrit La Croix des Assassins, mon co-auteur était célibataire. Et le personnage féminin concret s'appelle Aurélia. On arrive au mois de juin, mon co-auteur n'est plus célibataire et sa future femme s'appelle Aurélie. Donc il me demande, et en me disant, écoute, comme c'est toi qui les flingues toujours pendant tous les romans, t'es gentil, celle-là, tu me l'épargnes. On se retrouve quand même dans une situation un peu délicate, puisque moi j'avais prévu de la... Voilà. Je n'ai pas trop quoi en faire. Et je rencontre sa future épouse, tout se passe très bien, et Eric, dans le repas, dit, bon, cette fois-ci, comme ils ont le même prénom, on va se débrouiller pour... Je ferai le nécessaire. Et j'envoie les pages finales concernant ma part à Eric. Et j'ai un coup de téléphone affolé, il me dit, bon, effectivement, elle n'est pas morte, mais enfin, la mettre dans le coma, quand même, c'est pas forcément très sympa. Je dis, écoute, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Et puis, on passe au volume suivant, qui suit l'an dernier. Et là, il se trouvait que j'écrivais un petit peu les parties contemporaines, à cette époque-là, et Eric un petit peu autre chose. Et j'envoie le début du roman, et Eric me dit, t'es vraiment une ordure. La première scène, c'est Marcas qui se recueille sur la tombe de sa femme. Je dis, oui, mais là, vous êtes mariés depuis cet été.
Il n'y a plus rien voilà. à sauver.
Mais c'est assez difficile de donner une vie sentimentale, je dirais, au long cours à un héros policier qui revit une aventure chaque fois.
Parce qu'il est policier ?
Ne me demandez pas, surtout pas, si c'est parce que nous avons eu, nous, des déboires sentimentaux. Non, c'est en général la question qu'on finit par me poser.
J'avais deux questions. C'est où est-ce que c'est parce qu'il est policier ou est-ce que c'est parce qu'il est franc-maçon ? C'était ça, ma question.
Alors, si vous voulez vraiment une réponse, c'est surtout parce qu'il est policier. Parce qu'effectivement, la vie d'un policier, la vie de famille, n'est pas forcément une chose extrêmement, extrêmement sensible. Les francs-maçons ont une vie sentimentale, affective et conjugale fortement épanouie.
Est-ce que vous êtes aussi bien renseigné sur la vie des policiers que sur la vie des francs-maçons ?
Je lui rends très bien renseigné sur la vie des policiers francs-maçons.
Bon, alors, qu'est-ce que j'aimerais bien revenir quand même à Sade, parce que pour moi, c'est aussi...
On revient toujours à Sade.
C'est aussi une façon de parler plus du romanesque que de l'ésotérisme. Est-ce que c'était important pour vous de le faire traiter par le regard de Fouché? Comment est-ce que Fouché intervient dans cette... On sait le rôle qu'il a pu jouer dans les emprisonnements de Sade, mais est-ce que cette vision de policier de l'époque vous semblait importante?
Oui, c'était essentiel pour deux raisons. La première, c'est que Sade a passé toute sa vie soit à être emprisonné, soit traqué par des policiers, et qu'on a un document magnifique, c'est qu'on a le carnet de notes du policier qu'il a traqué pendant 10 ans, qui s'appelait Martin Marais, et qui notait quasiment tout de ce que faisait Sade pendant la période de sa vie, ses maîtresses, combien elles leur coûtent. Et chose très amusante, il est encore mieux renseigné que Sade sur ses maîtresses, parce qu'il note aussi les autres amants qu'avait la dame, ce qui est assez drôle. Donc je voulais vraiment qu'il y ait ce regard policier. Et ensuite, parce que Fouché, c'est le grand inquisiteur de la République et c'est le grand inquisiteur de Napoléon. Vous savez que les renseignements généraux, c'est lui. Vous savez que l'homme qui a eu l'idée de créer des fiches,
c'est lui.
C'est lui.
Avant Pasqua.
Il a envoyé à tous les préfets de France un modèle de fiche qui est un modèle policier du genre et qui a été un échec total parce que les préfets, quand ils ont eu le travail que ça demandait, le faisaient remplir par les bureaucrates de la préfecture en vous disant « Tous mes administrés, pour ne pas se faire virer, sont géniaux, sont tous républicains, sont tous bonapartistes, il n'y a surtout pas un royaliste et un déviationniste. » Bon, il a créé ça. Et puis c'est quand même l'homme qui avait un réseau d'espionnage. On a les notes sur Sade qui sont tout à fait remarquables. Vous savez, il y a une histoire qui est très amusante. Emmanuel Varesquiel, qui a écrit la dernière bio de Fouché, raconte qu'un soir, une dame l'a appelé en lui disant « Écoutez, mon père vient de mourir, il voudrait que vous... » Il a demandé dans ses volontés que vous veniez à la maison voir des cartons. Et Varesquiel y est allé et il y avait 7 cartons d'archives inconnues de Fouché. Et dans un des cartons, il n'y avait rien sur Sade, on a vérifié, ne vous inquiétez pas, mais dans un des cartons, il y avait la liste de tous les indicateurs de Fouché de 1802 à 1814. Cette liste, on l'avait déjà à la Bibliothèque nationale, mais codée au niveau des noms propres. Là, tous les noms y étaient et les sommes données mensuellement à ces personnages. Quelle est la personne qui arrive en tête parmi les mieux payés des espions de Fouché ? C'est Joséphine de Beauharnais, la femme de Bonaparte.
J'aurais dû savoir, j'ai été voir le souper.
Et ça, et avant le mariage de Bonaparte, jusqu'à la chute de l'Empire. 1 000 francs par mois.
Cherchez la femme.
Alors, si vous préférez, pour décortiquer Sade, il n'y avait pas mieux que cet homme-là, qui est un sorcier en sa matière.
D'accord. Et est-ce qu'il a une vision pour vous? Est-ce qu'il est fasciné par Sade? Ou est-ce que justement ce regard, parce que Fouché, c'est quand même, enfin pour moi, c'est un peu le grand serpent, c'est quelqu'un qui est d'une extrême froideur, d'un extrême détachement, d'un extrême jusqu'au boutiste. Est-ce que c'est pas lui qui, d'une certaine façon, change le regard que tout le monde a sur Sade? C'est-à-dire que Sade, c'est quelqu'un qui n'a jamais tué personne, comme
oui,
on le dit.
Oui, Sade c'est, le dit lui-même, hein, je suis libertin, je ne suis pas un assassin, mais jusque encore très récemment, on peut avoir des intellectuels qui, se référant à des archives un petit peu tronquées, vont établir que Sade a été un tueur, un assassin, qui dans l'état actuel, rien ne permet de le dire.
Et c'est un syndic maintenant, c'est quelqu'un qui est considéré comme vraiment... qui n'a pas du tout d'aura positive.
Il y a trois hommes qui ont eu un mauvais destin dans ce pays. Il y a le préfet Poubelle, qui a eu le malheur de vouloir que le Paris soit hygiénique, qui a laissé son nom aux poubelles. Vous avez Guillotin, qui alors lui... plus mal finir, c'est pas possible, qui a donné son nom à la guillotine. Et vous avez du Sade sadique. Mais comment ça s'est fait? Vous avez un psychiatre allemand qui s'appelle Graf Deming, qui décide d'une classification à un moment, et qui n'a pas de nom pour le plaisir prendre du plaisir en donnant de la douleur. Or, il a le même problème dans le cas inverse. Là, il trouve un bouquin de Masoch, et ça donne masochisme. Et on lui met sous la dent un extrait de Sade, en l'occurrence Justine, traduit en allemand, il ne s'embête pas. Sade, il le prend et il en fait ça. Pour la petite histoire, ça, dans mon provençal médiéval, ça veut dire joyeux. Voilà. Pour en revenir à Fouché, effectivement, le fait que sa réputation de grand inquisiteur soit totalement acquise fait que ça permettait de donner un poids de véracité sur cette tentative de donner de l'image de Sade, non plus le mythe, mais l'homme derrière la légende noire. Puis bon, quand même Fouché, grand inquisiteur, grand serpent, je veux bien, mais l'homme qui a inventé le massacre des prisonniers dans des fosses, c'est pas les nazis en 1942 en Ukraine, hein. C'est Fouché à Lyon, hein. C'est lui qui innove le modèle de faire creuser les tombes aux gens et qui lui le fait pas au fusil mais le fait au canon. 1342 morts en 17 jours. Grand inquisiteur, oui, mais... Voilà.
Grand bourreau aussi.
Grand bourreau aussi, et sans état d'âme.
Qu'est-ce que vous pourriez amener comme orientation un peu ésotérique à cette vie, malgré tout? Vous avez dit que Sade ne s'y était pas intéressé du tout, mais est-ce que quand on a cette vie, on n'est pas quelqu'un...
Si, voilà. Là, je pense que vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que si l'ésotérisme, c'est le dépassement des dogmes et la recherche d'une humanité au-delà de la vision étriquée des systèmes religieux ou politiques, là, Sade rentre parfaitement, effectivement, dans cette définition, puisqu'il sera battu toute sa vie, à la fois contre la dogmatique de l'Église, mais à la fois aussi contre les pouvoirs en place, quels qu'ils soient, puisqu'il a été quand même emprisonné sous quatre régimes. De ce point de vue-là, oui, on peut l'inscrire fondamentalement dans ce qu'on appelle l'ésotérisme philosophique. En revanche, il n'a pas, lui-même en tout cas, dispensé un enseignement dans ses livres dont on pourrait dire aujourd'hui, voilà, c'est un ésotérisme libératoire. Dans ce genre de cas, ce n'est pas le cas. En revanche, ses commentateurs l'ont fait pour lui. Vous savez que quand il était en ce qu'on appelait à l'époque une prison pour fous, il avait des fans hein, quand même qui lui écrivaient régulièrement.
Comme
déjà.
Charles Johnson. Hein?
Oui, ça doit être ça.
Mais est-ce que ce que je trouve intéressant quand vous dites qu'il n'a rien écrit et qu'il n'a pas enseigné, je trouve que le parallèle entre lui et Casanova, par exemple, sur des choix de vie, des choix de liberté. Qui implique d'être jugé par la société, par ses pairs, par ses contemporains, c'est quand même au final un enseignement, deux, trois siècles après, mais est-ce que ça n'est pas ça justement, être quelqu'un qui a une capacité ésotérique, d'être capable de, par ses choix de vie, même si ça implique de grands sacrifices
Alors, Casanova, bien distingué Casanova, l'homme et sa vie, et puis les mémoires de Casanova, enfin la vie de Casanova écrite par lui-même, parce que Casanova, plus intégré dans le siècle que Casanova, très franchement, on ne fait pas. Il a connu toutes les cours d'Europe, il a connu toutes les personnes qui ont compté en Europe pendant toute sa vie cosmopolite. Ce n'est vraiment qu'à la fin de sa vie qu'il s'en est un petit peu détaché. C'est un homme totalement intégré qui ne remet pas en cause les dogmes de l'époque. On le retrouve aussi bien dans une église que dans une loge maçonnique. Il a un côté très, très, très opportunant, je ne dis pas opportuniste, mais opportunant, très fluide, qui lui réussit vraiment très bien. Là où ça change radicalement avec Casanova, c'est le Casanova vieillissant qui se retrouve à Doux dans un château en Autriche où il est vraiment misérable, où il n'a plus d'argent et où dans les mémoires, il va créer ce personnage totalement libertin et libérateur et en particulier dans tout l'intérêt qu'il peut avoir sur la question féminine. Donc c'est une reconstruction a posteriori que nous admirons aujourd'hui. Est-ce qu'elle correspond vraiment à ce qui fut la vie de Casanova à l'époque? Je ne sais pas. Sachez quand même que Casanova et Sade ont eu la même maîtresse à Venise qui s'appelait Sarah Goudard. Ils ont partagé à quelques années de distance. Et pour la petite anecdote, parce que celle-là je la trouve remarquable, est-ce que vous savez comment Casanova écrit les mémoires? On a la correspondance de Casanova quand il est au château d'Oux en Autriche. Un correspondant lui écrit, lui demandant « qu'est-ce que vous faites ?» Et là, Casanova écrit une lettre en lui disant « écoutez, j'ai un grand projet. Je vais écrire un dictionnaire raisonné des fromages français. » Casanova était un gourmet hors pair. Magnifique projet, enfin bon, etc. J'aurais adoré lire le dictionnaire des fromages français par Casanova. Et puis, passionnant, le même correspondant écrit et redemande des nouvelles du projet. Et là, Casanova fait une lettre que je trouve une des plus admirables de Casanova. Je n'ai pas pu écrire ce livre. Écrasé par l'ampleur de la tâche, je vais raconter ma propre vie. Nous avons la mémoire de Casanova parce qu'il n'a pas réussi à écrire sur les fromages.
C'est vrai que c'est assez intéressant. Est-ce que vous pourriez... Est-ce que dans vos romans, voilà, revenons sur l'ésotérisme, est-ce que dans vos romans, vous pratiquez les clés? Est-ce que vous pratiquez l'utilisation du langage des oiseaux? Est-ce qu'il y a beaucoup de lectures potentielles, de grilles de lecture de vos romans?
Alors, c'est amusant.
Moi, je sais un peu mieux.
C'est amusant que vous me disiez ça, parce qu'effectivement, dans les deux premiers, on avait codé le texte à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on avait changé la graphie de certaines consonnes et certaines voyelles dans certains chapitres. Et on a attendu patiemment que quelqu'un le trouve. Et on a attendu. Et puis, effectivement, quelques lecteurs s'en sont aperçus. Et bon, il y avait effectivement des parties codées, donc une partie ésotérique à l'intérieur même du texte. Et puis, les bouquins sont sortis en poche. Et un jour, on reçoit les éditions de poche. Et là, on s'aperçoit que les mots qu'on avait mis en italique ont disparu. Alors, on appelle le correcteur qui nous dit « Je sais pas comment vous démerdez, il y avait des erreurs de police de caractère. J'ai tout enlevé. » Bon, voilà. Mais après, ces petits jeux ont des limites. Parce que, par exemple, sur le 7e Templier, c'est plutôt mon co-auteur qui écrit la partie contemporaine, mais là, j'avais écrit les 20 premières pages. J'ai entièrement codé tout le texte du tueur du moment où il rentre du jardin de Luxembourg jusqu'au meurtre qu'il fait dans une rue, je ne me souviens plus du nom d'ailleurs, tout est codé à travers le mythe de Reine de Château. Personne ne s'en est jamais aperçu. C'est ça qui est assez... C'est ça qui est assez amusant. Mais en même temps, je m'en méfie parce que... Je vais vous raconter une anecdote et vous allez comprendre pourquoi. Quand on a écrit le 7e Templier, à un moment, on avait besoin de créer à l'intérieur même de ces Templiers quelque chose de plus ésotérique, au sens vraiment romanesque du terme. Donc, on a créé un ordre qui s'appelle le cercle intérieur. Bon. Et à l'époque, quand on l'a créé, on se souvenait d'un certain bouquin d'Umberto Eco, où comme ça, des jeunes étudiants s'amusent à créer une fausse société secrète. C'est dans le Pendule de Foucault, sans doute le meilleur Eco. Et finalement, ils finissent par être persécutés parce qu'on croit à ça. Et puis, je me retrouve assigné en septembre à la Forêt des Livres. Et monsieur, mais assez jeune, me serre la main en me la tripatouillant de tous les côtés, comme si j'étais un initié, et me dit d'un air très mystérieux « cercle intérieur ». Et là, je vois le type qui a lu et qui pense
que vraiment
il y est. Il a cette phrase admirable, mais je ne comprends pas. « Tu ne connais pas les attouchements ». Ben non, je n'y ai pas pensé à les créer encore. Et j'ai trouvé ça remarquable. Mais je m'en méfie beaucoup. Parce qu'alors aujourd'hui, quand même, et c'est peut-être le fond du sujet sur une conférence comme ça, l'ésotérisme, très vite, ça déraille sur le complot. Très vite, ça déraille sur la conspiration. Et on entend des choses aujourd'hui qui sont quand même très, très profondes. problématique. Mmh. On a beaucoup de mal aujourd'hui à expliquer que certains aspects complotistes et conspirationnistes n'existent pas.
Mmh. Revenons sur le nombre de francs-maçons réellement en France et remettons ça en...
Le nombre de francs-maçons en France, c'est 250 000 personnes. Vous savez, la meilleure histoire pour ne pas croire au complot maçonnique, elle est très simple. C'est l'histoire dite de 42. Pétain arrive au pouvoir, les francs-maçons sont chassés des administrations, vraiment persécutés. Il y en a quand même 200 à 300 qui finiront en camp de concentration. Les choses se passent très mal pour eux. On met des expositions anti-maçonniques à Paris, on monte des crânes partout, tous les francs-maçons ont un nez crochu. Bon, je vous passe les détails, mais enfin, c'est assez frappant. Et puis, à un moment, ils décident de frapper un grand coup. Ils décident de publier au journal officiel toute la liste des francs-maçons de France. C'est publié. Qu'est-ce que font les journaux locaux, style, je sais pas moi, West France ou autre? Ils republient chacun dans leur région la liste des francs-maçons des communes et des départements. Et c'est là que l'antimaçonnisme s'est arrêté. Parce que les gens, il y avait la profession. Instituteur, facteur, boulanger, instituteur, facteur, boulanger. Ils sont où les maîtres du monde? Ben, visiblement, ils n'y étaient pas. Voilà.
Ils sont dans le pétrin.
Ils sont dans le pétrin, oui. Pour moi, ils l'étaient, c'est moi qui veux dire. C'est ça un petit peu la chose. Mais aujourd'hui, ça devient très difficile de l'expliquer. Si vous dites ça, par exemple, quelqu'un vous dira, avec un sourire ironique, ouais, vous croyez vraiment qu'ils étaient sur les listes? Ben voilà, on n'en sort plus.
Oui. Cela dit, ça explique la suite et l'espèce d'importance que revêt le secret pour les francs-maçons suite aux persécutions. Enfin, il faut pas retourner.
Alors, il faut bien comprendre la différence entre les francs-maçonneries anglo-saxonnes et françaises. Mmh. Quand vous allez aux États-Unis, vous êtes très surpris. Vous avez des types qui roulent dans leur bagnole avec le pare-brise I am Freemason. Bon, très bien. En France, vous prenez des pierres, ou avec le nom de la loge derrière, et vous arrivez, par exemple, en décembre devant des loges maçonniques aux États-Unis, c'est carrément la guirlande de Noël. Mmh. Bon. Et je vous passe toutes les sociétés caritatives avec le petit chapeau qui se balade dans les rues. Bon, c'est très curieux.
Parce que c'est un synonyme de succès.
Parce que c'est synonyme de succès, puis surtout synonyme de convivialité, surtout de charité aussi, hein, beaucoup plus qu'initiation. Mais ce sont des gens qui n'ont jamais connu l'occupation. En revanche, dans tous les pays européens qui ont connu l'occupation, c'est-à-dire en l'occurrence l'Italie, l'Allemagne et la France, c'est vrai que passé 1945, le secret devient une sorte de seconde nature, comme elle l'a été pendant plusieurs années. Donc on ne peut pas comparer ces deux maçonneries qui n'ont pas le même élan historique.
Mais c'est sans doute ce qui crée cette espèce de marronnier dans la presse sur le secret des francs-maçons, alors que le secret est imposé, mais il est imposé à celui qui devient franc-maçon.
Sur les marronniers, dans la presse, il faut bien voir les choses. Vous avez trois marronniers. Vous avez les francs-maçons, vous avez les hôpitaux publics et l'immobilier. Moi, je rêve du numéro spécial, l'immobilier et les hôpitaux publics tenus par les francs-maçons. Là, ça fait un carton pas possible, quoi. Mais ils ne l'ont pas fait jusqu'à maintenant. Bon. En revanche, ils ont fait... quels sont les francs-maçons qui se cachent dans les médias? Et on a fait quand même un petit texte pour montrer un texte... numéro de Je suis partout, 1939, organe extrême droite, quels sont les juifs qui se cachent dans les médias, dans la presse. Je veux juste faire quand même une légère parenthèse. Le secret maçonnique, il y en a deux. Il y a d'abord le fait que vous jurez de ne jamais révéler ce qui se passe à l'intérieur de la loge. Ça n'a jamais tenu. Les hommes sont bavards. Depuis qu'on initie des femmes, c'est pire. Celle-là, je l'attendais. Voilà, c'est pire. Tellement facile. Non. Mais ça n'a jamais tenu, parce qu'en fait, le secret n'a pas été compris. Il n'a jamais été dit que le secret devait porter sur le rituel. Le secret porte sur la discussion qu'il y a en loge et le fait qu'on ne dit pas « telle personne a dit ça en loge ». Parce qu'il y a une liberté de ton qui n'existe pas ailleurs. Donc ce secret-là reste, l'autre a toujours été divulgué. Et après, le véritable secret, c'est de se dire « ben voilà, vous arrivez, vous êtes reçu franc-maçon, vous êtes initié, et puis vous recevez le secret de la franc-maçonnerie ». Le secret de la franc-maçonnerie n'existe pas. Le secret de la franc-maçonnerie, c'est tout simplement le fait que quand vous êtes initié et que vous pratiquez les rituels, bah, psychologiquement, il se passe quelque chose. Mais ce quelque chose-là, vous pouvez pratiquer le rituel tout seul dans votre coin chez vous, ça ne marchera jamais. C'est quelque chose qui se fait effectivement naturellement, en quelque sorte. Et ce secret-là, quand les gens vous demandent qu'est-ce que c'est, bah, on ne peut pas l'expliquer. Il est totalement indicible. C'est comme le secret du baptême pour les catholiques. Ou... Voilà, c'est des choses qui sont très profondes et qui touchent la psyché humaine.
Sauf que comme plein de personnes pensent ne pas pouvoir y avoir accès, ça amplifie l'idée qu'on s'en fait. Contrairement au baptême.
Ça amplifie effectivement l'idée qu'on s'en fait, parce que la franc-maçonnerie, je ne dis pas qu'elle n'est pas ouverte à tout le monde, ce n'est pas le cas, puisque tout le monde peut demander à rentrer franc-maçon, contrairement à ce qu'on croit d'ailleurs, et que généralement, la plupart des gens qui le demandent sont pris, en grande majorité. Donc il n'y a pas, une omerta là-dessus, mais reviennent aujourd'hui des croyances très anciennes que parfois on me pose dans des conférences ou autres. Parce que c'est vrai qu'on voit le diable dans vos... mon grand regret, non. J'étais rentré pour ça, mais je ne l'ai pas trouvé. Je me suis fait arnaquer. Est-ce que c'est vrai que vous sacrifiez des enfants? Ça, ça devient assez répandu. Je réponds toujours des jeunes vierges uniquement. Excusez-moi. Voilà. Mais maintenant, peut-être il y a 3-4 ans, les gens vous le disaient rigolant. Ouais. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Une bonne... bonne minorité de la population croit réellement que nous pratiquons en loge des rites plus ou moins sataniques. Et la meilleure preuve, c'est qu'on a quand même eu une loge maçonnique qui a été brûlée par un adolescent de 17 ans qui a balancé un cocktail Molotov à l'intérieur parce que Satan, il tenait sabbat, et qui a dit ça aux policiers. Donc ça arrive. Ça se répand, ces idées-là.
Ce serait peut-être intéressant de remettre au goût du jour des choses que les gens ont fini par oublier sur la religion catholique, mais le mystère autour du baptême existait. Le labyrinthe avant d'être un initié catholique, ça existait. On était baptisé seulement quand on avait passé le labyrinthe, les colonnes de l'église.
Oui, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. À partir du moment où vous êtes une société où il y a peu de gens, dont on dit que c'est une société secrète, alors qu'on est déposé en préfecture, on est une société discrète, ce n'est pas du tout la même chose. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a des films qui ont été tournés. En 42, Force Occulte a filmé une tenue maçonnique avec des acteurs qui est impeccable. Ça ressemble exactement à ce qui se passe. Vous la diffusez, et généralement, il y a déception. Les gens disent c'est ça, c'est le premier stade. Et après vous dites non mais vous n'avez pas filmé la bonne. Bah, alors à partir de là on ne peut. Je raconte une anecdote parce qu'elle vaut quand même le déplacement. J'ai un jour une signature, une dame qui est venue me faire signer un bouquin. Et pendant que je faisais la signature, la dame m'a dit vous savez j'habite devant une loge maçonnique. Je lui ai dit vous avez de bons voisins. Je vais pas lui dire autre chose. Elle me dit oui je vois, je les vois arriver, tatati, tatata. Bon très bien. Elle me dit vous savez ce que je fais, non madame, je les compte quand ils rentrent. Je lui ai dit on passe les soirées comme on peut. Je vous conseille d'aller regarder une bonne série américaine sur HBO, ça sera plus intelligent. Mais, ouais. Et bien sûr, la suite, vous l'imaginez très facilement, elle s'écrit tout de suite. Elle m'a dit, je les compte quand ils sortent. Quand on est rationnel, on est rationnel. Bon. Et effectivement, la suite, vous la connaissez, parce que le pire, c'est que cette histoire, vous prenez Léo Taxil 1890, vous la trouvez déjà, elle y est déjà. Et bien sûr, la dame, qui n'avait pas l'air plus idiote que ça, me dit « il en manque un ». Bon. C'était pas une loge mixte, il y avait des hommes. Alors, vous avez plusieurs réactions. Vous pouvez vous énerver, vous pouvez dire « rien de marre d'entendre ces conneries, maintenant ça suffit, c'est plus possible ». Et moi, j'ai essayé d'agir rationnellement. J'ai dit « écoutez, madame, les francs-maçons, c'est une loge de province, ça fait par loge une quarantaine de personnes, grand maxi. Ils se réunissent deux fois par mois ». Et ils se réunissent 10 mois par an parce que même les maîtres du monde prennent des vacances au mois de juillet et d'août. 10 mois multipliés par 2, si on en tue chaque fois, en 2 ans, on a tué tout le monde. Moi, j'appelle ça du rationalisme à la Descartes, quoi. Basique, simpliste, niveau CM2. Et j'étais assez content. Et la dame a fait un super sourire, elle m'a dit « vous recrutez beaucoup bon, ». Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Ah, c'est une possibilité. Non, le problème, c'est qu'on ne peut plus rigoler. C'est-à-dire que même maintenant, quand vous sortez une vanne sur ces questions, c'est plus comme avant, vraiment. On vous regarde différemment. On croit que vous cachez quelque chose.
Quoi qu'il arrive, quoi que vous disiez.
Et même... Même maintenant, c'est vrai que quand vous avez des réunions amicales avec des gens, des amis d'amis qui ne savent pas forcément que vous êtes franc-maçon, je suis surpris, moi, depuis quelques années, de voir des gens qui disent « Tiens, j'ai pas eu ma promotion, mais un tel qu'il a eu est franc-maçon. » Ça, c'est des trucs qu'on n'entendait pas, qu'on n'entendait plus depuis très très longtemps. On sent monter un anti-maçonnisme. Bon, moi, ça fait quand même 10 ans que j'ai fait des conférences. À Strasbourg, je l'ai fait sous escorte policière. Du train à sortie, je le fais sous escorte policière parce que j'ai l'extrême droite qui entoure le truc. Et j'en ai à l'intérieur aussi. C'est pas qu'il soit menaçant, on peut pas dire ça, mais... Voilà, maintenant je suis obligé de le faire sous escorte policière. Ça devient de plus en plus difficile. C'est l'anti-tout. Mais l'anti-maçonnique a cette facilité de s'inscrire dans une continuité historique qui fait que... Le vrai problème, pour être franc, c'est Internet. Voilà. On va dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire que vous balancez sur Internet un texte de Léo Taxil complètement délirant qui vous raconte que dans les loges, on fait apparaître le diable sous la forme d'un crocodile en haut de forme qui joue du piano, ce qui est vrai. Ce truc-là est répandu dans Internet sur des centaines de sites. Ben vous aurez quelqu'un qui viendra vous voir et vous expliquer que le croco, voilà, et malheur si votre femme à côté a un sac à croco parce que vous expliquez que on s'en sort jamais, quoi, si vous préférez. Et ça se répand et ça devient, oui, problématique. Oui. C'était pas le cas il y a 5 ou 6 ans. C'était pas le cas. Mais attention, est-ce que c'est la faute des gens? Moi, je ne dis pas ça. Je pense aussi que. Aux gens, on leur a menti sur beaucoup de choses. Je vous donne un exemple classique. Il y a un C dans l'air avec Yves Calvi et le directeur de Marianne, Jean-François Kahn de l'époque, et d'autres journalistes, éminents journalistes. La discussion était sur capitalisme et lobbying. Sujet intéressant. Et à un moment, vous savez, quand dans cette émission, vous avez des petits SMS qui apparaissent où il y a des questions. À un moment... un spectateur dit que savez-vous sur le groupe Bilderberg? Et là, réellement, vous pouvez le voir, c'est sur le net. Hein. Tous les journalistes sur table éclatent de rire. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Encore des fantasmes complotistes et excusez-moi pour le verbe pour vous, se foutent de la gueule du type qui pose la question en direct, nous journalistes tout. Le groupe Bilderberg, il existe depuis 1945. Il a toujours fonctionné, sauf que ces gens-là ne le savaient pas. Ou plutôt s'en foutaient complètement. Et c'est un groupe d'influence très puissant. Et là, je suis sérieux, ça existe. Le problème pour les gens qui sont en face, c'est qu'aujourd'hui, groupe Bilderberg, tout le monde sait qu'il fonctionne. Tout le monde sait qu'il fonctionne. Il a été créé en 1945 par les Américains avec la CIA pour faire un poids financier d'opposition au cas d'une invasion russe. Voilà, c'est un truc qui compte pas. Les gens disent, soit j'ai de la classe journalistique la moins bien informée de toute l'Europe, donc là tous les journalistes passent pour des imbéciles, soit on me cache quelque chose. Et généralement c'est soit on me cache quelque chose.
Surtout quand les gens rient ensemble.
Mais il faut arrêter de prendre aussi les gens pour des imbéciles. Quand les gens posent des questions, il faut peut-être aussi, de temps en temps, leur répondre au lieu de dire ce que vous racontez, ce sont des idioties, nous on sait. Et je crois que c'est cette position, parfois, mais à la fois des journalistes, mais à la fois d'autres gens, d'ex-cathédra, je sais, qui fait qu'aujourd'hui, les gens finissent par douter de ce qu'on leur dit, et de douter à raison. Pour la petite histoire, le groupe Bilderberg existe vraiment, a toujours existé. On en a eu la véritable information, parce qu'ils ont tenu une réunion à côté de Barcelone, dans une station balnéaire huppée, et que la police catalane locale a demandé une augmentation de salaire, parce que comme c'était des vulgaires capitalistes, ils avaient marre de les protéger. Et c'est comme ça qu'il y a eu une grève de la police catalane, et c'est comme ça qu'on a revu ce groupe de Bilderberg, qui pour l'instant était resté un petit peu secret, c'est vrai. Mais ça, c'est des choses quand même qui sont importantes. Quand on raconte aux gens des choses qui ne sont pas, il y a toujours des problèmes.
Alors, est-ce que c'est de la responsabilité de chacun d'arrêter de voir le monde de façon romanesque, c'est-à-dire d'arrêter de romancer le réel et de... Le romanesque, on le trouve partout, dans les livres, dans les fictions, dans les films. Est-ce qu'il y a un moment où il faut tracer une ligne plus ferme entre le vrai et le faux?
Je crois que... Alors, nous, dans les romans, on le fait, c'est-à-dire qu'à la fin de nos bouquins, on a toujours des annexes où on distingue ce que j'appelle le bon grain de livret, c'est-à-dire ce qui est réel de ce qui est fictif. On le fait systématiquement pour éviter ce genre d'amalgame. Après, je crois que ça va beaucoup plus loin que ça. Dans une société, il y a des thématiques qui appartiennent au romanesque. Aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, la violence, elle est dans les jeux vidéo. Voilà. Mais elle n'est pas dans la rue, quoi qu'on en dise. Quand la violence est dans la rue, vous n'avez plus de jeu de cirque. C'est comme ça que ça se règle. Voilà, c'est un système qui fonctionne à deux pendants. Le problème du conspirationnisme, du complotisme, c'est qu'il est resté dans la littérature et dans les films longtemps. Là, ça y est, c'est fini. Il en est sorti. Il est dans la population. Et vous pouvez raconter ce que vous voulez, vous pouvez écrire ce que vous voulez, vous ne le changerez pas. C'est rentré dans les mœurs.
Les esprits sont définitivement perdus.
Je ne sais pas si les esprits sont définitivement perdus, je ne le pense pas, mais je pense que la défiance par rapport au discours d'autorité qui dit « moi je sais » et « moi ce que je dis c'est la vérité », c'est fini.
Parce que les gens ont été trop trompés.
Je pense que les gens... Enfin, regardez l'évolution politique de notre belle société française depuis 40 ans. Et puis, moi, je sais pas, quand j'avais 12 ans, c'était déjà la crise. Quoi. Donc, ça continue. Donc, les gens peuvent quand même se
poser des questions.
Ben, je sais pas, vous voyez une campagne électorale. Quoi. Vous voyez ce qui est promis, vous voyez ce qui est dit, vous voyez ce qui est fait. Les gens peuvent légalement, à un moment, commencer à se dire...
Je doute.
Je doute. je peux douter. Regardez l'élection à la FIFA. La corruption est à tous les étages. Il a trouvé une majorité à 89 ans pour se faire réélire. Mais comment voulez-vous expliquer au type qui est honnête, qui paye ses impôts et qui gagne 1200 euros par mois, que lui, il faut qu'il ferme sa gueule? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que médiatiquement et politiquement, non, rien ne se passe. Non, mais on a une vraie fracture. Et quand vous êtes écrivain, vous voyez, vos lecteurs, vous le sentez de plus en plus. Une vraie fracture dans la société occidentale sur ces questions-là. Je ne sais pas effectivement comment on en sortira, non.
Bon, on n'a pas été très romanesque sur la fin. Est-ce que quelqu'un a une question avant qu'on remercie Jacques Raven? Oui. Les États-Unis.
De l'Union était franc-maçon.
Oui.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que sur les billets de dollars américains, il y a des symboles franc-maçons.
Et même quand vous êtes un jeune américain, vous apprenez l'histoire des États-Unis, on vous explique le rôle des sociétés secrètes d'origine maçonnique dans la lutte d'indépendance. Et la société secrète, bizarrement, dans l'enseignement pédagogique américain, elle est présentée d'une manière plutôt positive. Voilà. Et c'est assez étrange pour nous, les sociétés secrètes sont plutôt représentées de manière négative. Maintenant, sur la franc-maçonnerie américaine, 5 millions il y a 25 ans, entre 400 et 500 000 aujourd'hui. Il faut quand même se poser la question de pourquoi ça ne marche pas, alors que les franc-maçonneries européennes, asiatiques, et très paradoxalement pays de l'Est, Russie et même pays arabes se développent grandement. Je crois que la solution est assez simple. La franc-maçonnerie aux États-Unis ne se distingue plus du Rotary. C'est la même chose.
Et par ailleurs, c'est une des seules maçonneries qui, jusqu'à encore très récemment, a pratiqué la ségrégation et le racisme de façon très très claire et marquée. Et continue.
Non.
Et le misogyne, oui, mais ça, c'est dans d'autres régions de la franc-maçonnerie.
Non, aux États-Unis, vous avez une franc-maçonnerie noire et vous avez une franc-maçonnerie blanche, asiatique. Voilà, c'est plus une seule. C'est totalement dans les mœurs. Ça n'a pas du tout la donnée sociale ou de réflexion intellectuelle qu'on a en France et ça n'a pas du tout la donnée de convivialité ou de fraternité qu'on peut avoir en Europe. En revanche, la franc-maçonnerie se développe beaucoup dans d'autres pays, oui. Énormément même.
Maintenant que les hommes... ont décidé que peut-être que certaines femmes pouvaient aussi être franc-maçonnes, vous voulez dire que ça peut marcher?
Non, là, il ne faut pas faire de faux procès là-dessus. Il y a eu des francs-maçons depuis le XVIIIe siècle et tout le monde le sait. Simplement, l'évolution de certaines obédiences vers la mixité, c'est-à-dire à la fois qu'il y ait des hommes et des femmes, a été effectivement un assez long combat. Il faut l'avouer, un combat un peu ridicule parce que vous aviez en même temps des francs-maçons qui, dans les médias, vous parlaient de l'humanité, de l'universalité de l'humanité, qui, dans le même temps, empêchaient 50% de la population humaine de rentrer dans l'horloge. Il y avait une incohérence qui était totale. Je crois que ça tenait principalement au fait que, pour beaucoup, femmes ou hommes, l'idée que notre sexe arrive avec une vision différente gênait, tout simplement. Parce qu'on avait l'impression qu'en travaillant qu'entre hommes, par exemple, c'était plus simple. Mais quand même, si moi m'amuse beaucoup, quand on veut pousser le raisonnement jusqu'au bout, c'est que quand on pose la question, on dit toujours « Ah ben vous les francs-maçons, vous refusiez les femmes ». On ne pose jamais la question à la grande obédience féminine qui refuse d'initier les hommes depuis sa création. On leur pose jamais la question à eux. Moi j'aimerais bien.
Parce que
moi, mot d'obédience, il y a des femmes, il y a des femmes et des hommes. Je vais dans des obédiences où les hommes ne sont pas initiés. C'est curieux, on pose jamais cette question aux femmes. La parité, ça va être ça aussi. Hein.
Le patriarcat est quand même plus longuement installé que le matriarcat jusqu'à présent.
Ça dépend des tribus. Ça dépend des tribus.
Une autre question peut-être ? Non ? Eh bien alors, nous allons dire.
Monsieur ?
Monsieur.
D'un point de vue juridique ou d'un point de vue. En France ? Alors, en France, non. Non, en France, non, elle ne rentre pas dans le répertoire des sectes, elle est considérée comme une association philosophique, c'est le terme actuel. En revanche, dans d'autres pays, elle est considérée, alors c'est peut-être pas le mot secte qui me viendrait directement en place, mais elle est considérée comme un contre-pouvoir dangereux. Je pense en particulier à certains pays musulmans.
Parce que le droit d'association est limité.
Parce que le droit d'association est limité. Mais dans le reste du monde, la Chine, où c'est quasiment impossible à l'heure actuelle. Mais vous connaissez quand même le mot Trotsky sur la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est une... Ah mince, ça ne me revient pas. Est une, je ne sais pas quoi, sur le socialisme français qu'il faut traiter au fer rouge. Ça vous dit à peu près la position... Oui, c'était à peu près dans cet ordre-là. Et on ne pouvait pas être, par exemple, membre du Parti communiste et membre d'une loge maçonnique. Ça c'est toujours d'ailleurs interdit.
Et en France, le côté sectaire ne tient pas en ce qui concerne la franc-maçonnerie, puisque selon les obédiences et les loges, on prête serment et on jure et sur des textes ou des livres différents. Des musulmans sont initiés.
Pour vous rassurer pleinement, en fait, on est une secte qui a réussi.
comme la religion catholique.
Comme la religion catholique.
Des mouvements sectaires. Les éléments de jugement, les jugements de... Oui.
Il y a 70 ans, l'Église catholique entrait totalement dans ces textes-là.
Et il y a des pays où la scientologie est considérée comme une secte, le nôtre.
D'autres où elle est considérée comme une religion. Ouais. Enfin, la phrase que nous disons toujours et qui fait beaucoup rire, mais que j'aime bien... c'est que la différence qu'il y a entre la franc-maçonnerie et une secte est simple. C'est dans une secte, vous rentrez facilement, mais vous sortez difficilement. Chez nous, vous rentrez difficilement, mais vous sortez très facilement.
Eh bien, merci à
parfois,
tous.
Parfois, effectivement, mort, c'est vrai. Ça, excusez-moi, c'est un détail.
Et parfois, simple boulanger, donc.
Et parfois, malheureusement, simple boulanger, maître du monde caché.
C'est vrai.
Et oui.
Merci à tous, merci, quand même.
Merci beaucoup.
Et à une prochaine fois. C'est bien.